Et sans transition de la Côte de Serre, nous allons revenir sur Saint-Brieuc. Direction la maison Louis Guillou avec Dominique, Chantal et François. D'abord, bonjour et bienvenue sur Radioactive à tous les trois qui viennent nous parler. Eh bien, avec une belle thématique, le livre, faites-le vous-même. Ça vient d'où cette thématique ?
C'est une thématique, en fait. Le titre a été choisi là, par Michel Guillaumard, hein, qui est responsable de la maison Louis Guillou. Et en fait, ça vient du fait que j'anime avec une amie une toute petite maison d'édition qui s'appelle La Baraque de Chantier.
Et donc, qui est à l'honneur hein, en ce moment, la maison Louis Guillou d'ailleurs.
Voilà. Et donc, pour l'essentiel, les livres qu'on produit, on les fabrique entièrement à la main. Donc, ça signifie un petit nombre d'exemplaires et ça signifie des techniques qui sont accessibles à des gens qui ne sont pas forcément très adroits de leurs mains, qui peuvent un peu, mais enfin, qui ne sont pas des spécialistes. voilà.
Et ben c'est une superbe initiative. Et puis, ça me rappelle, alors, on a invité un poète il y a quelques temps de cela qui faisait un peu quelque chose de similaire. C'est Nicolas Maillard, peut-être que vous le connaissez. Nicolas ayant fait quelques exemplaires de son livre en poterie et lui-même étant un peu embêté parce que, enfin, en poterie, en terre, hein,
en terre,
tout cas,
oui, si
il est un peu embêté parce que justement, tout a été vendu, tout était commandé, et du coup, il se retrouve à faire d'autres livres. C'est un peu compliqué.
Voilà. Donc, en fait, ce qu'on a choisi, nous, comme principe, sauf pour un des livres, c'est qu'on ne refaisait pas. C'est-à-dire qu'on a décidé qu'une fois que le livre était épuisé, il était épuisé, qu'on ne le remettait pas en route. Et quand même, pour la raison principale, que les photos, mon ami avec qui je travaille, il a fait de la photographie, en fait, mais elle traite la photographie en procédé ancien. Elle utilise le procédé du cyanotype, qui est un procédé qui est comparable à la photo argentique, mais au lieu d'être fait avec des sels d'argent, c'est fait avec des sels de fer.
D'accord.
Donc les photos sont bleues. Hein. Et ensuite, elle les traite, elle les vire avec différents produits. Du coup, c'est difficile d'obtenir plusieurs fois la même image.
Alors, est-ce qu'on peut dire, du coup, que la baraque de chantier, c'est un petit peu la maison d'édition qui met juste à la frontière entre la littérature et peut-être une forme d'artisanat, quelque part ?
Alors, c'est à la frontière entre... ça parle essentiellement du rapport entre l'image et le texte, parce que c'est comme ça qu'on travaille. Tantôt, j'écris sur ces images, tantôt, elle fait des images sur mes textes, et tantôt, on part du même thème, de la même thématique, et on produit toutes les deux quelque chose. Et le livre... J'ai oublié la question, tiens.
Non, je disais que c'était vraiment à la frontière entre l'artisanat, entre cette volonté de fabriquer, de restituer quelque chose que l'on fait avec ses propres mains, et finalement l'écriture, la littérature au sens très large. Quoi.
Ouais. C'est-à-dire on a le sentiment quand on travaille que le livre qu'on va produire, l'objet qu'on va produire a un effet en retour sur ce qu'on est en train de faire du point de vue tant de l'image que de la littérature.
Donc il en devient pratiquement vivant, parce que moi j'ai souvent entendu dire que les écrivains, enfin les personnes qui écrivent, et notamment les auteurs de fiction, de temps en temps les personnages finissaient par avoir leur propre vie, leur échapper. On peut dire que finalement le livre, dans le cadre de ces livres qu'on retrouve à la baraque de chantier, on peut dire que finalement ils ont leur propre vie au bout d'un moment, quoi.
Ouais, ils vivent tout seuls, et puis ils sont bizarres aussi. Par exemple, on vend des pots de confiture.
Alors là... On me montre effectivement un pot de confiture avec un magnifique texte dedans qui s'appelle d'ailleurs Voyous et confiture noire, c'est ça ?
Confiture noire, c'est le titre de la collection.
D'accord.
Voilà. Et donc, c'est une série de nouvelles plutôt noires, effectivement.
Pas vraiment. Alors, dis donc, il faut avoir une sacrée bibliothèque avec 10 000 étagères. Parce que
c'est très bien parce que j'ai des amis qui en ont et ils les posent devant leurs livres, en fait.
Ça, d'accord.
Dans les étagères.
Ça vient d'où cette idée, du coup ?
C'est une idée qui
c'est Dominique, pardon.
C'est rien. C'est une idée qui m'est venue comme ça. En fait, c'est un peu une idée à caractère alimentaire aussi, même si c'est une bonne idée commerciale, parce que les livres qu'on fait, certains des livres qu'on fait sont chers parce qu'on a travaillé avec un typographe, on a travaillé sur du papier de moulin, etc. Donc ça coûte des sous et on ne veut pas les vendre trop cher et on ne peut pas les vendre trop cher non plus parce qu'on n'a pas une surface de réputation considérable. Et donc on a fait ça. Parce que ça, on le vend assez facilement.
C'est un très bel objet,
voilà,
entre parenthèses.
Et puis les gens trouvent que c'est des bons cadeaux.
Alors, je l'ai cru rapidement pour les auditeurs, parce que nous n'avons pas de webcam et nous en sommes bien fiers. Je vois un pot de confiture avec d'ailleurs une graduation autour, un texte à l'intérieur, un texte qui est signé de Dominique. Ouais. Donc, elle me l'ouvre, on va pouvoir regarder l'intérieur, et là, on déroule un espèce de petit parchemin sur lequel est marqué voyou, et le texte commence. D'ailleurs, là, où, effectivement, je peux constater que vous avez à faire appel à des typographes, parce que là aussi, l'écriture, elle est composée d'une manière. Alors, les paragraphes sont très très beaux, les uns à côté des autres, sur un très très beau papier, ouais. Visiblement. Et ça s'appelle voyou. Alors, c'est un texte intégral, du coup, que vous montrez là.
Ah, ben, c'est tout le texte, voilà, tout le texte, et sur un papier, je ne veux pas donner de détails techniques, hein, mais disons que c'est effectivement l'objet livre est extrêmement important par rapport au texte, quoi. Le texte est fait en fonction de l'objet livre. C'est le livre qui est la contrainte pour l'écriture du texte, puisqu'il faut qu'on ait le nombre de caractères nécessaires, hein, pour.
Donc il y a vraiment un vrai boulot aussi de métrique, j'ai envie de dire.
Ouais, il y a un boulot de. En fait, je travaille avec un logiciel de mise en page, uh-huh. Et j'écris dans la mise en page.
Ah ouais, c'est plus facile. Hein.
C'est facile de faire la radio quand on a toutes les cases là écrites. C'est simple.
On se taquine, évidemment. Du coup, les textes en eux-mêmes qui sont parus et qui paraissent à la baraque de chantier, c'est essentiellement de la poésie ou un peu plus que ça?
Alors, il y a quand même surtout de la poésie. Ça, c'est des nouvelles, c'est pas de la poésie.
Oui, c'est vrai que ce que je viens de voir, ça ressemblait pas à de la poésie.
C'est des nouvelles, hein. C'est plutôt de la poésie, parce que c'est moi qui écris et que j'écris surtout de la poésie. On est en train de mettre en place une petite collection qui va tourner autour de l'idée des vieilles clés. J'ai plein de vieilles clés chez moi dans un sac, je sais pas quoi en faire, donc j'ai pensé qu'on pouvait les insérer dans du carton plume, les enfoncer comme si on avait roulé dessus avec une bagnole. Et à partir de là, chaque volume porte sa clé. Et on est en train de créer une collection de récits, sans doute, un peu mille et une nuits, des contes un peu comme ça.
Mais dis donc, Dominique, il faut avoir un regard presque double ou triple, c'est-à-dire qu'il faut à la fois avoir le regard de l'auteur, ouais. Le regard de la personne, je disais un peu artisan tout à l'heure, mais effectivement du contenant, entre ouais, parenthèses, ouais. Entre guillemets, évidemment. Et puis aussi le regard de l'éditeur, donc c'est-à-dire que t'es pas un peu schizophrène, des fois?
Si, mais enfin, je suis même trisophrène. Non, c'est pas très compliqué, parce qu'il y a pas de, on n'a pas de problématique financière, on n'a pas l'intention de gagner de l'argent avec, hein, donc c'est pour ça qu'on est sous forme associative et pas sous forme d'entreprise. Et en fait, il suffit qu'on arrive à récupérer ce qu'on a mis dans la cagnotte.
Voilà, donc, c'est ça. Donc voilà. Il faut au moins rembourser le...
Voilà, puis c'est tout. On n'est pas professionnel.
Et du coup, cette maison d'édition, elle est basée où exactement?
Alors, j'ai un pied en Seine-et-Marne et un pied à Plougrescamp.
Une belle région.
Et l'ami avec qui je travaille a aussi un pied dans le même patelin de Seine-et-Marne, et là, c'est elle qui a une maison à Plougrescamp. Donc on est un peu entre les deux.
Alors, je ne veux pas faire de comparaison entre Plougrescamp et la Seine-et-Marne, c'est pas tout à fait la même rivière qui est à côté.
Ouais, non, mais c'est très bien chez moi, je suis juste à côté de Disneyland.
À Plougrescamp?
Non.
Le mieux pour les auteurs, quand même. Il y a combien d'auteurs d'ailleurs qui paraissent, qui sont publiés chez la baraque de chantier?
Alors, pour la baraque de chantier, pour l'instant, il n'y en a qu'un. C'était au départ une entreprise qui a été montée pour publier mes textes et montrer les images de Claude. Parce qu'en fait, le résultat de notre travail aurait un coût d'édition très très important.
Bien sûr.
Hein, donc c'est bon, on a même à peine cherché à le faire éditer, donc on a décidé d'éditer nous-mêmes. Au départ, c'est ça. Et là, on a commencé à travailler avec d'autres graphistes. On a fait un bouquin avec un graveur, en plus de Claude. Et là, avec cette collection clé, là, je commence à demander à d'autres auteurs de...
Et ça doit les interpeller, à mon avis. Ça doit plutôt les toucher, j'ai envie de dire.
Ouais, je crois que ça leur plaît. Ouais, ça leur plaît, ça leur fait plaisir.
Parce qu'on sait bien que les auteurs sont des gens qui ont des multiples univers, et puis c'est surtout des gens qui adorent la fantaisie, en principe. En principe.
Pas tous.
Pas tous, mais enfin. Alors, le principe aussi de la maison Louis Guillou, parce que je crois que c'est aussi l'un des postulages de quelque chose d'important qui se passe à la Maison Louis Guillou, c'est que c'est un endroit de rencontre, ouais. Et notamment à travers des ateliers d'écriture, oui. Auxquels Chantal et François, auxquels vous participez, c'est bien ça?
Oui.
Alors le mieux dans ces cas-là, Chantal, et là, c'est de prendre le petit papier qui est devant toi, on t'écoute, c'est résultat d'un atelier d'écriture, on t'écoute, parce que de la littérature sur Radioactive, ça fait toujours du bien et ça nous envoie très très loin. On t'écoute, c'est ta propre production.
Voilà. Alors, ce petit texte fait partie d'un ensemble que Dominique et les autres avaient baptisé Les Passants du Gouette. Je m'appelle pas Aragon, mais je crois que je saurais faire. Faire quoi? Un insipide. Un insipide quoi? Comment? Un insipide d'enfer. C'est peut-être bien aujourd'hui mon jour de gloire, ma gloire rêvée, mon succès ultime. Jujubert te croit au merveilleux. Enfin, elle voudrait y croire, y entrer. Elle en a rêvé. Alors Jujubert s'habille avec grand soin, sa belle robe à fleurs, des fleurs rouges, oranges, bleues, un collant, fond bleu, de sa super marque, Berthe au grand pied. Elle a mis ses boucles d'oreilles favorites, des fleurs rouges. Elle a ajusté sur sa tête son petit béret vert. Il est orné des plumes perdues du boa de son amie Ginette. Ses yeux sont mascarisés, eyelinerisés, ses joues blushées. Pimpante, je le suis, je le reste et hop, j'y vais. Elle attrape son petit sac. Mon Dieu, qu'il est chou! Dans la rue, elle avance, le cœur battant. Traverser la passerelle, une rue, deux rues, la place en question, la place de Robien. Des portes, la bonne porte. Ciel, elle est fermée. Stop. Elle va pleurer. Hihi. Alors une jolie voix bien timbrée. Mademoiselle, c'est la porte à côté. Mais c'est qui, c'est quoi cette voix céleste, quasi céleste? Oh, qu'il est grand. Oh, qu'il est beau. Oh, que ses yeux sont bleus. Il lui ouvre la porte, elle sourit, elle s'avance, elle entre. Oh, le monde. Elle ne voit que des têtes, elle ne voit que des dos. Trop de têtes, trop petites, c'est pas juste. Tout à coup, c'est le noir, total, dense. Le silence, un silence abattu. Un confort frayeur. Trouver la sortie. À tâtons, à reculons, zigzag incertain. Un zigzag bien heureux qui la pousse dehors, dans des bras. C'est magique, c'est son sauveur de tout à l'heure. Quelques sourires plus tard, il dira... Je suis son frère, celui-là même d'un seigneur, celui des anneaux, petit frère de Bilbo. Un anneau vient d'être dérobé, je suis à sa recherche. Voulez-vous venir avec moi? On suppose que Jujubert les grands pieds a dit oui, car à Saint-Brieuc, on ne l'a jamais revu.
Bravo, c'est très, très bien. C'est bien ce que je disais, hein. Vous aimez bien quand même aller dans des mondes un peu étranges, et ça c'est génial.
Ben oui.
C'est recréé Saint-Brieuc,
oui,
la Chantal.
Oui,
c'est un Saint-Brieuc que je connaissais pas du tout. Et je
c'est
me suis vu en plus avec ce... Parce que bon, c'est un peu un portrait de moi en fait, ce grand bonhomme aux yeux bleus.
Oui, j'y pensais.
Mais non, mais c'est formidable de recréer comme ça. Et ça, ces ateliers, ils ont lieu à quelle fréquence à la Maison Louis Guillou?
Alors, les week-ends, c'est un par trimestre.
Très bien, oui, donc ça y a moyen de le caser dans un agenda quand même. Hein.
Oui, et puis sinon c'est un épisode par mois avec que vous devez connaître, Manuel Campos.
Tout à fait, voilà. qu'on a eu la chance et l'occasion de rencontrer à l'occasion de notre délocalisation à la Maison Louis.
Je suis Manuel.
Très bien.
Donc l'atelier là qu'on a fait, on était neuf, hein, avec moi, et en fait c'est une espèce d'épopée sur Saint-Brieuc. Donc on a fait peut-être ce serait bien que François lise aussi, parce que c'est un autre
on va prendre le temps, et puis je vois, alors en plus lui il a on parlait de support tout à l'heure, lui c'est un petit malin, il a amené sa tablette numérique, comme ça il peut agrandir les textes. Non mais j'ai les mêmes problèmes, donc il n'y a pas de souci, hein.
Et donc c'est l'Odyssée qu'on a réécrite, hein. Donc,
d'un certain Homère.
Ouais, c'est ça, ouais, d'un certain Homère. Et donc là, ça c'est je lis là l'invocation à la muse, hein, qu'on a faite au début.
Mais je t'en prie, nous sommes tout ouïes.
Donc, murmure, chuchote, clapote, papote, récolte, ruisselle, gronde, inonde, déborde, ô Gouette, raconte-nous l'histoire de Pissou du temps qu'il fait, de la même mère au Paris-Brest, de Crapouillot, de chat qui pue, de Rajdingue Pouéraille, de Dieu sur terre et de Nénette. Du Jean-Paul, de la Jeanne, du Jules, de Jujubert les grands pieds, de Josie les gros sacs et d'Amédée du bord de route.
Formidable. formidable. Alors, c'est quoi? C'est des personnages que vous avez croisés?
Inventés,
c'est encore mieux.
Peut-être croisés, d'ailleurs.
Peut-être croisés. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que la littérature, c'est ça? C'est réinventer un monde quotidien?
Ouais, c'est faire le lien. Pour moi, hein, dans la façon dont j'écris, c'est faire le lien entre la littérature passée qu'on a lu, qu'on a aimé, et le monde d'aujourd'hui. Et donc, il faut rien laisser tomber. Il faut essayer de tout utiliser. C'est pour ça que l'atelier, là, il démarre d'Homère et il arrive dans la vie la plus quotidienne et la plus barge.
Hein, mais c'est ça qui est formidable, en fait. Ouais. Et puis j'ai l'impression quand même, alors en saluant forcément la mémoire de Louis Guillou et puis d'autres auteurs qui j'ai l'impression que Saint-Brieuc, ça quand même inspire pas mal de monde et ça inspire pas mal les auteurs quand même.
Ouais, il y a beaucoup de gens qui écrivent manifestement à Saint-Brieuc. Hein. Et puis il y a des textes forts qui sont sortis de la ville. Ouais.
Et moi, ce que j'avais beaucoup aimé lorsque nous nous étions rendus à la maison de Guillou, c'est pas de la complicité, c'est pas forcément le terme le plus juste que j'ai envie de dire, mais il y a quelque chose entre vous que nous n'avons pas, nous malheureux qui n'écrivons pas assez. Il y a vraiment un espèce de lien entre vous qui fait que, bah voilà, je sais pas, on vient chez vous et on est bien accueillis et on vient aussi dans la littérature, quoi. Je veux dire, il y a quelque chose qui vous lie, c'est ça, c'est cet amour-là peut-être.
Oui, c'est assez particulier parce que, effectivement,
en soi, ouais.
On peut dire que l'écriture, c'est un sport individuel. Mais on peut quand même le transformer en travail d'équipe.
Et ça, c'est formidable. Ouais.
Et c'est ce qui se fait de plus en plus. Notre atelier d'écriture ce week-end, c'était ça. Mmh. Une tentative de tous travailler ensemble.
Et puis, moi, ce qui est formidable, excuse-moi François, et ce que j'adore vraiment, hein, c'est qu'il n'y a pas d'histoire de classe sociale, il n'y a pas d'histoire d'âge, il n'y a pas d'histoire d'origine, de machin. Tout le monde vient, tout le monde travaille autour de cette thématique. Et finalement, j'ai l'impression que l'un des buts aussi des ateliers d'écriture de la Maison Louis Guillou, et puis des expos, et puis aussi, quand on rencontre Dominique avec cette maison d'édition, la Baraque de Chantier, j'ai l'impression qu'il y a une vraie volonté de s'étonner d'abord vous-même et après d'étonner les autres, mais peut-être vous-même avant les autres, quoi.
On est toujours surpris. Tu commences à écrire, tu sais pas où tu vas. Et à la fin, il y a un résultat, il y a un texte qui est là, qui te bluffe toi-même. Tu savais pas que tu avais ça en toi.
Voilà.
C'est là.
Eh ben, il y a quelque chose que tu as en toi et que tu as mis sur papier, mon cher François. Ouais. On t'écoute.
Josie avait posé ses sacs devant l'entrée du bar. Trois gros sacs plastiques. Le modèle à 1,20€. Pas celui à 80 centimes, dont les poignées finissent toujours par lâcher dès que les sacs sont en surcharge. Et les sacs de Josie sont toujours en surcharge. Elle avait posé ses sacs devant l'entrée du bar parce que Mario, le patron du scénario, rebaptisé par les habitués de chez Mario, lui avait interdit de continuer à s'étaler dans son bar, deux ou trois tables occupées, envahies par les sacs, le manteau, le bonnet, les mitaines mitées, et le couffin. Le couffin. On n'a pas parlé du couffin. Un couffin recouvert en partie de tissu Vichy. Oui, comme la robe de bébé. Vichy sale. Parce que le couffin traîne partout, dans des coins bizarres. Déchiré, entamé, en lambeaux par endroits. Le couffin est fermé, sur le dessus, par un couvercle en toile de jute grossièrement cousu, avec de la grosse ficelle. Je dis les gros sacs, portait le couffin grâce à une grosse lanière qui passait de son épaule droite à son flanc gauche entre ses seins volumineux, en les séparant. Josie avait aussi un gros cul. Mais nous en parlerons à un autre moment où ce détail aura son importance. Mario ne supportait plus l'envahissement de son espace commercial par la triste et pitoyable brocante itinérante de Josie. Par contre, certains artistes des habitués de sa clientèle, ainsi Jojo de Minimuche, Augustin Les Pinceaux et Vladimir La Rime Folle, parlaient de Josie en termes d'avant-garde conceptuelle, de la récup comme subversion sociale, comme paradigme du gaspillage de la société de consommation, des sacs comme ready-made, du couffin comme concept illustrant la réification, les choses parlant aux choses alors que les hommes n'ont plus rien à se dire. Mario intervenait alors pour interrompre la diarrhée verbale d'un décisif. Alors les artistes, quand est-ce qu'on règle son ardoise? Ce qui avait le don de calmer les délires verbeux. Le couffin de Josie, que contenait-il? lui qui semblait si lourd. Tout le monde s'interrogeait. Mais nous en parlerons plus tard. Oui, comme pour le cul, gros de Josie. Les gros sacs de Josie, ceux à 1,20€, passés à 80 centimes, dont les poignées finissent toujours par casser, ils ont toujours intéressé Loulou du Polygone, voleur de son métier, récupérateur social de son ambition. Le jour où Mario, excédé, a demandé à Josie de laisser ses sacs devant la porte du bar plutôt qu'à l'intérieur, Loulou a entrevu l'aubaine. S'est emparé des sacs et a couru comme un dératé jusque dans la vallée du Guédic pour examiner le butin. Loulou, on le connaît bien. Quand l'histoire s'est tassée, il est réapparu, on l'a interrogé, questionné, cuisiné. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans les sacs? Mais jamais, au grand jamais, il n'a craché le morceau. Ce qu'il y avait dans les sacs, on n'a jamais su. Loulou du Polygone n'a jamais plus été le même. Accro à la Mirabelle, il s'est exilé en Lorraine. Surnommé le Pissou, il arpente la grande rue d'un village en parlant du temps qu'il fait. Mais ceci est une autre histoire, comme celle du couffin, comme celle du cul, gros, oui, de Josie.
Bravo. Quelle malice. Et là, j'ai eu plein d'images de cette ville que je connais bien, qui s'appelle Saint-Brieuc, qui me sont passées devant les yeux. Rien qu'à t'écouter parler, cher François. T'écouter lire, pardon. C'est formidable. Et ça part de la même thématique, hein, on le rappelle. Et donc, on voit que... Après combien je suis très nul en date, ça fait quoi Homer 7000 ans à peu près. Peut-être pas tant que ça, mais enfin ça fait des milliers d'années.
Quelques milliers d'années.
Voilà, on sent, et ça aussi j'ai envie de dire, ça fait partie de la littérature, il n'y a plus du tout de notion de temps. Tout ça s'abolit, tout ça se remodernise, tout ça se retrouve autour d'un atelier d'écriture à la maison Louis Guillou. Et quel sens de la liberté, j'ai envie de dire, non? Qu'est-ce que t'en penses, Dominique ?
Ouais, c'est une liberté formidable que les gens acquièrent quand on part de du principe que tout le monde, absolument tout le monde, peut écrire.
C'est pas une
affaire socio-culturelle, machin chose, qu'il y en a qui pourraient, qu'il y en a qui pourraient pas. C'est l'écriture, la parole et l'écriture, d'abord, qui sont entièrement liées, articulées l'une à l'autre. C'est une caractéristique de l'être humain dans sa plénitude. Et du coup, tout le monde est capable d'écrire. Une de mes activités professionnelles a été d'animer des ateliers d'écriture avec des gens qui n'utilisent pas l'écrit. Je dis jamais des illettrés, parce que c'est un truc que je supporte mal, hein, comme terme, mais avec des gens qui dans leur vie quotidienne, n'utilisent absolument pas l'écrit. Il y a plein de moyens pour faire en sorte qu'ils produisent quelque chose qui est de l'écriture et qui devient peu à peu avec le travail de la littérature.
D'accord.
Ça, c'est clair.
C'est aussi du travail quand même, faut pas l'oublier. Même si, là encore, je me répète, il n'y a pas d'a priori, on peut y aller. En plus, je crois qu'on peut s'y inscrire à peu près toute l'année, hein, aux ateliers d'écriture. J'ai quand même envie de revenir rapidement quand même sur la thématique de notre émission, qui est le livre Faites-le vous-même. Quand on vient rencontrer Dominique, alors on peut s'attendre à avoir des conseils évidemment, mais moi ce que je ressens aussi dans cette phrase, c'est une forme de manifeste et surtout une forme de dire mais allez-y, faites votre propre bouquin, quelle que soit la matière, quelle que soit la texture qui va le composer, il va être forcément bien et beau.
C'est un appel à faire parce qu'il ne va pas être forcément bien et beau, mais le fait d'être obligé de le fabriquer...
Il va être bien et beau dans le regard de quelqu'un, excuse-moi, mais je suis sûr de ça.
Oui, bien sûr. Mais il va être bien et beau parce qu'en fait, on a travaillé pour le fabriquer, c'est-à-dire qu'on a été obligé de se le représenter. Et en se le représentant, on le modifie en permanence, on le fait bouger, on le transforme. Et du coup, au bout, on a un objet qui est un objet qui, pour celui qui l'a fait, a beaucoup d'importance et qui, pour celui qui le reçoit, est aussi... transmet quelque chose de fort.
Mais sur quoi on peut s'appuyer pour faire soi-même son propre livre ? Au-delà de l'expérience littéraire. Moi qui suis un manuel de déplorable, comment je fais ?
Tu inventes quelque chose à partir de quelque chose que... Qu'est-ce que tu sais faire dans la vie ?
La radio un peu.
De la radio ? Tu fais un livre parlant.
Ah, pas bête ça.
Tu vois ?
Mais je suis pas obligé d'écrire dans ces cas-là.
Ben non, tu parles. Tu peux transformer, c'est ce qu'on a fait, hein. Ici, on a démarré l'atelier par de la parole. Tu peux transformer ta parole en écriture. Tu vas marcher au bord de la mer, tu marches longtemps et tu parles. Et au bout d'un moment, ton écriture, elle va prendre le rythme de ton pas. Donc, à partir de ça, tu peux créer quelque chose et faire un livre. Tu fais un livre, un CD, ça peut être un livre, et puis avec c'est une vrai. Image dessus, voilà.
C'est vrai. Donc il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de frein, surtout.
Non, il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de frein. Ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Après, de temps en temps, on se plante aussi. Hein, et puis on jette ce qu'on a fait, puis c'est fini. Ce n'est pas grave non plus. Hein.
Là aussi, ça fait partie du processus de création.
Ça fait partie du jeu.
Bien sûr. Et donc, il n'y a pas de matière préconçue. On peut faire ça avec n'importe quoi.
On peut faire ça avec n'importe quoi. Ça, ce petit bouquin-là, c'est très simple. Hein. C'est des papiers normaux de machine, d'imprimante, ouais. Hein, imprimé. Juste le seul truc, c'est que j'ai rajouté un calque coloré à l'intérieur pour chaque.
Là encore, excuse-moi, mais il y a un petit effort de typographie qui a été fait aussi.
Ah ben ouais, mais ça c'est enfin du point de vue de l'édition écrite, la typographie et la mise en page, c'est fondamental parce que c'est la manière dont le texte parle une fois qu'il est mis sur le livre, sur la page.
Effectivement.
Donc ça, c'est vraiment fond. On ne peut pas faire un livre sans se demander comment. À chaque texte, à chaque page, comment on va le mettre en page. Sinon, ça n'a pas de sens.
Donc ça fait partie là aussi, finalement, presque du point de départ du processus d'écriture.
Ça peut faire partie du processus de création. Le fait qu'on imagine le texte écrit, ça peut faire partie de... Je pense qu'un plasticien... il projette quelque chose, imagine quelque chose de ce que va être sa toile. On est un peu dans la même situation avec le livre.
D'accord, et donc forcément ça veut dire, voilà, faites-le vous-même quoi, et surtout faites.
Faites-le, puis cherchez les autres pour faire avec eux, et pour parce qu'on invente, en fait on invente beaucoup mieux et beaucoup plus richement quand on est plusieurs que quand on est tout seul.
Bien sûr.
C'est clair.
Et donc dans ces cas-là, il suffit d'aller à la maison Louis Guillou,
par exemple,
quartier Saint-Michel, de taper à la porte, vous serez forcément bien reçu, vous regardez quand même les jours où il y a du monde, parce que oui. Cette série d'écriture, c'est pas forcément tous les jours, mais c'est quand même assez régulier pour satisfaire tout le monde. Et puis je le rappelais, on peut s'inscrire toute l'année et puis on peut venir quand on veut. Hein. Je ne m'avance pas beaucoup en disant ça. Il y a quand même une question que j'ai envie de vous poser à tous les trois, et là peut-être qu'on sort un peu du cadre, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inspire un peu ces temps-ci? Est-ce que pour puiser son inspiration, au-delà du fait de se donner des cadres comme l'Odyssée d'Homère, retranscrite à Saint-Brieuc, etc., on est quand même dans un monde en mouvement, il y a des choses qui se passent autour de nous. Est-ce que ça vous donne des idées, de la nourriture pour écrire ça? Je pense, je ne sais pas, en ce moment, par exemple, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de gens dans les rues, par exemple. Est-ce que ça, c'est une matière d'écriture ou ça viendra peut-être plus tard, oui, de manière abstraite?
Vraisemblablement plus tard, en ce qui me concerne, en tout cas.
Chantal, ouais.
Oui.
Donc, ça veut dire qu'il faut aussi ce temps de digestion, peut-être, pour écrire?
Mais je pense que c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Enfin, pour moi, c'est quand même comme ça. Ce n'est pas l'immédiateté.
Oui, j'ai essayé d'écrire juste après les attentats.
François, ouais.
Après les attentats de Charlie Hebdo. J'écris très peu. Hein. Je produis un ou deux textes par an, au grand maximum. Et j'ai essayé d'écrire, et je me suis rendu compte à chaud que tout ce que j'écrivais était incantatoire,
ouais,
était mauvais. Et après, j'ai entendu les dessinateurs dire... Tous leurs premiers dessins, ils les ont jetés. Oui. On ne peut pas écrire sur l'émotion.
Voilà.
Pas au moment de l'émotion, on n'est pas bon. On est encore dans la souffrance de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu, et on n'arrive pas à produire quelque chose. Tout le monde a dessiné les mêmes crayons cassés, les mêmes crayons dans les tours, les mêmes Kalachnikov.
Oui, c'est vrai que les icônes, entre parenthèses, entre guillemets...
Tout le monde a fait ça, ouais. C'était pas très bon. Ça voulait dire quelque chose, mais c'était
pas
bon.
C'était de l'émotion.
Et c'était juste l'émotion, il fallait dire quelque chose, et il faut du recul. Et je n'ai pu écrire qu'après le Bataclan, en n'écrivant pas sur le Bataclan, mais dans le Bataclan. En étant quelqu'un à l'intérieur, et en disant, je suis allongé là, et il vient de se passer ceci, cela. Mais pas en étant extérieur. Il a fallu que je m'implique dedans. Et que je suis une victime.
Mmh. Oui, Dominique.
Ouais, le monde, il est là, il est toujours présent, quel que soit le thème dans lequel on... Enfin, si on est honnête avec soi en écrivant, hein, si on ne cherche pas à planquer des choses, ouais, le monde, il est toujours présent. Mais les formes d'écriture, selon les personnes, peuvent être très différentes. Mmh. Et du coup, il y a des choses de la réalité tout à fait matérielle, concrète, qu'on vit, qui vont passer, mais d'une manière différente. Après, qu'est-ce que le lecteur va en recevoir, on n'en sait rien, on n'en sait rien. Donc la question de l'écriture sur l'immédiat, je suis d'accord avec eux, hein, on n'écrit pas dans l'immédiat, parce que quand on écrit dans l'immédiat, voilà, on sort beaucoup de clichés en réalité. Mmh. Hein, c'est ça. Voilà, on sort
beaucoup de clichés.
Donc il faut avoir aussi ce recul sur le temps, ce recul sur soi-même aussi, parce qu'on est un bon critique de soi souvent, oui, c'est le cas avec François visiblement. Et puis, donc il faut forcément ce temps de digestion, j'ai envie de dire, je me répète. Il y a une notion qu'on n'a absolument pas abordée, et j'en suis un peu désolé parce que le temps file à la vitesse de l'éclair, c'est la notion de personnage. Est-ce qu'il faut forcément passer par l'incarnation d'un personnage, inventer un personnage pour faire de la littérature ou pas?
Ça dépend de quelle littérature tu parles. C'est-à-dire, il y a un risque dans les ateliers d'écriture, c'est que les personnes qui écrivent, qui commencent à écrire, écrivent uniquement en jeu. C'est-à-dire, n'utilisent que leur propre vécu, leur propre affectivité. Et du coup, c'est en général, d'une part, c'est difficile, parce que c'est difficile de le lire aux autres, etc. Et puis, c'est pas encore de la littérature. Ça peut en devenir, mais c'est pas encore. Ça en devient quand on arrive précisément, on est en train de parler de la même chose que tout à l'heure, en fait. Ça en devient quand on arrive à sortir de soi, et un des moyens de sortir de soi, c'est de se projeter dans un personnage qui est différent de soi, qui déplace. Donc voilà. Après, il n'y a pas toujours un personnage dans la littérature, dans la mesure où le personnage peut être autre chose qu'un vivant.
Oui. C'est vrai que Saint-Brieuc, c'est une forme de personnage.
C'est un personnage. Dans notre histoire, là, c'est le premier personnage, c'est Saint-Brieuc, c'est le Gouet. Hein, puis à partir de là, il y a des personnages qui foisonnent.
Et ça, c'est génial. Ouais. Moi, j'ai vraiment, à l'issue de cet entretien, une vraie impression de liberté. C'est peut-être encore l'endroit de la liberté le plus absolu que la littérature, y compris pour les auteurs qui sont dans des pays où voilà, on peut pas parler trop fort, j'ai envie de dire ça comme ça.
Ouais.
Ils gardent. J'ai en mémoire un nom qui me vient, c'est Ismail Kadare, par exemple, qui était le plus grand écrivain albanais à l'époque où l'Albanie était, pas encore tout à fait une démocratie, mais c'était encore moins à l'époque. Ça ne l'a jamais empêché d'écrire, finalement. Et finalement, il trouvait aussi une liberté. Est-ce que c'est pas ça, finalement, quand on dit le livre, faites-le vous-même, est-ce que ça veut pas dire soyez libre, tout simplement, prenez la liberté qui est, inventez-vous votre propre liberté quelque part.
Ouais, inventez-vous votre propre liberté, et puis inventez-vous aussi la propre reconnaissance de vous-même. Il n'y a pas besoin d'aller chercher la reconnaissance dans des structures qui sont censées la distribuer.
Oui.
Elle passe par la rencontre avec d'autres gens, cette reconnaissance de soi. Elle passe pas par quelque chose qui vous donne l'imprimatur pour, voilà. Il y a de ça, bien sûr, il y a de ça.
Comment on fait pour avoir des renseignements sur à la fois la baraque de chantier et sur les ateliers d'écriture? La baraque de chantier, déjà?
Alors, la baraque de chantier, c'est très bête, c'est www.labaraquedechantier.org.
Labaraquedechantier.org, on va oublier les W parce que maintenant plus personne ne tape.
Labaraquedechantier.org. Il n'y a pas de tiret, il n'y a rien, et c'est juste labaraquedechantier.org.
Et donc vous ferez un voyage sûrement entre la Seine-et-Marne et Plougrescant, qui sont des endroits magnifiques. Et puis surtout, vous en saurez un petit peu plus sur cette magnifique maison d'édition ouverte à tous, et puis surtout avec plein d'idées. Et puis les ateliers d'écriture, on peut les conseiller. Chantal, François, vous pouvez redonner un petit peu les moments où on peut se rencontrer facilement? Ah, ils se regardent avec des yeux ronds. Et les gars, vous avez un agenda ou quoi?
Tu vois bien qu'on n'a pas préparé notre affaire.
Tu peux nous gronder.
Alors, pour ce que j'en sais, il devrait y avoir le 17 juin une restitution de l'ensemble des ateliers qui ont été faits à la maison Louis Guillou.
Quartier Saint-Michel à Saint-Brieuc, je rappelle.
Et que il me semble, pour ce que j'en ai entendu, parce que je ne suis pas impliquée dedans, que ça va être le bon moment pour prendre contact avec les ateliers, les animateurs d'ateliers, les gens qui les ont vécus et les textes qu'ils ont produits.
Donc le 17 juin, on retient la date et on la rappellera forcément sur Radioactive.
Merci.
Et puis même si c'est pas la bombe, on fera des rectifications, je vous rassure. En tout cas, c'était un vrai plaisir de vous avoir, Dominique, Chantal et François. Bonne continuation. Venez nous montrer ces fameux livres objets. En tout cas, je suis bien content d'avoir découvert qu'un pot de confiture pouvait contenir un texte magnifique. Et c'est un peu plus qu'un pot de confiture, c'est un livre, c'est un bel objet. Le livre, faites-le vous-même, c'est un manifeste auquel nous souscrivons forcément. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci.
Et continuez comme ça.